48 FM Le Mag. Culture,
logement,
environnement,
cuisine, gastronomie.
48 FM.
Emploi, développement économique,
vie associative,
tourisme,
rubrique pratique.
48 FM Le Mag.
Sport, nature, TIC,
citoyenneté,
patrimoine.
Et nous revoilà donc sur notre mag hebdomadaire, notre numéro 29, magazine donc, où aujourd'hui nous allons accueillir quatre invités. Hein. Alors le premier invité c'est Monsieur Brajon Laurent de l'association Brajé, Brajé Laurent donc de l'association Saint-Vincent de Paul qui organise entre autres l'opération CADI le 19 et 20 avril prochain. Ensuite, nous aurons Monsieur Garcia Marcel, qui donc fait partie de l'amicale philatélique du Gévaudan, qui lui organise un Carrefour Collection. Il nous en dira un petit peu plus tout à l'heure et nous dira un petit peu aussi l'ancienneté de ce Carrefour. Et puis pour finir, nous aurons deux invités avec Magali Barrel et Isabelle Lanal de la Ligue de l'enseignement qui viendront nous parler à la fois les séjours vacances, des petites vacances, les séjours d'été qui se préparent, qui peuvent nous proposer, enfin qui peuvent proposer à l'ensemble des auditeurs pour mettre leurs enfants en séjour, voilà. Et puis aussi les formations qui sont développées au sein de ce mouvement, des formations BAFA, BFD, je crois, voilà. Donc ils nous en diront un petit peu plus tout à l'heure. Mais nous allons commencer tout de suite donc avec Monsieur Brajé Laurent de l'association Saint-Vincent de Paul. Bonjour.
Bonjour.
Donc vous organisez là très bientôt ce que vous appelez un CADI, c'est ça?
Ce week-end, oui.
Ce week-end.
C'est des journées CADI en fait.
Journée CADI.
On se tient à l'entrée des grandes surfaces mandoises pour collecter des denrées alimentaires dans le but de les distribuer localement sur les mois de mai, septembre et novembre aux personnes les plus démunies, c'est-à-dire qui sont en dessous du seuil de pauvreté, voilà, qui est fixé pour une personne seule à 950 euros.
Et comment vous faites pour les distribuer? C'est-à-dire que
donc,
vous,
en fait,
vous avez une liste de personnes?
Non, les gens sont au courant pour la plupart. On est relié par les assistantes sociales qui nous les envoient. On établit un dossier, on voit s'ils ont droit ou pas à l'aide alimentaire. Et à partir du moment où le dossier est rempli, les trois mois où on assure nous la distribution, ils peuvent venir retirer un colis d'une valeur d'une trentaine d'euros par semaine. Alors la distribution se fait le mardi et le jeudi après-midi de 14h à 16h30. Et donc pour assurer cette distribution sur ces trois mois, le mois précédent, le premier mois de l'année où on le fait, c'est-à-dire mois de mai, en avril donc, on fait une collecte de denrées dans les grandes surfaces mandoises.
D'accord. Et donc, ça marche un peu cette collecte?
Mais on récupère à 80% de tout ce qu'on distribue sur ces deux jours. Donc oui, ça marche.
Ah oui,
donc
ça fait
les gens sont généreux et surtout, on a besoin de beaucoup de bénévoles pour le faire, puisqu'il nous faut à peu près une cinquantaine de bénévoles sur les deux jours pour réussir à récupérer... toutes les denrées nécessaires. D'accord. Donc on récupère des denrées non périssables et pour tout ce qui est périssable ou produits frais, on va à la banque alimentaire à Rodez en fait.
Donc
ça c'est un début de mois. Ouais, c'est stocké dans nos locaux, Cyrus Saint-Dominique.
D'accord.
Voilà.
Alors l'association Saint-Vincent de Paul, c'est paraît-il une des plus vieilles associations mandoises. Pouvez-vous en parler un peu plus?
Alors en fait, Saint-Vincent de Paul, ça a été créé par Frédéric Ozanam en 1833, et la conférence de Mende a été créée elle, en 1839, donc il y a près de 180 ans. Donc on existe depuis 180 ans. La mission première de l'association, c'était de faire des visites aux personnes à domicile. Donc on en fait toujours, à peu près 500 par an, aussi bien en maison de retraite qu'au domicile des personnes qui sont isolées socialement. Mais on fait aussi du soutien scolaire.
Alors, sous quelle forme le soutien scolaire?
Alors, le soutien scolaire, on accueille les enfants tous les jours après l'école, de 16h30 à 18h, aussi bien au primaire qu'au secondaire. On en a 32 cette année. Et donc, on les suit toute l'année. Et, on est en relation avec les enseignants si c'est nécessaire et avec les parents, parce que souvent, il y a des familles soit monoparentales où les parents ne parlent pas le français. Donc il y a des difficultés pour les aider dans,
d'apprentissage
dans leur,
et de,
dans le quotidien de leurs devoirs. Voilà.
Ouais. D'accord.
Puis on fait aussi des animations en maison de retraite. Là, on en a fait une à la résidence Pincourt. La semaine dernière, on était à l'adoration. Et à la fin du mois de mai, on sera à la résidence Chaldecost.
D'accord. Voilà. Quand vous parlez animation, c'est...
Donc,
c'est
alors, l'adoration, ils ont voulu qu'on organise un petit loto. Donc, on a fait un loto. On a fait venir un groupe folklorique à la résidence Pincourt. Et là, on va faire venir les enfants de l'école Saint-Joseph pour faire un spectacle à la résidence Chaldecost. Voilà.
D'accord. Donc, ça, c'est tout au long de l'année, ces
activités-là. Voilà. Donc, on en fait au moins une dans chaque maison de retraite. Et on peut intervenir dans d'autres cadres. Par exemple, dans le cadre de la semaine bleue, on intervient aussi dans les maisons de retraite.
D'accord. Voilà. La semaine bleue étant la semaine un petit peu spécifique pour les personnes
voilà,
âgées,
ouais.
Hein, qui est ciblée voilà, durant l'année.
Ouais. Donc ensuite, l'actualité, c'est le 19 et 20 avril, la collecte de denrées alimentaires.
Alors moi, il y a une question qui me vient. Vous faites une collecte, en fait, un petit peu à contre-courant de ce que fait les Restos du Cœur. Non,
oui, parce
que,
mais c'est différent.
Parce qu'en période hivernale, en général, on fait des collectes pour
alors, les Restos du Cœur. Ouais. Alors, normalement, l'organisation, c'était celle-là. Les Restos du Cœur faisaient l'hiver, sûrement.
D'accord.
Ouais. D'accord. Et les 9 autres mois de l'année étaient partagés entre 3 autres associations. Saint-Vincent-de-Paul, la Croix-Rouge et le Secours Populaire. Donc, c'est une organisation qui existe toujours, même si, au point de vue national, notamment pour les Restos du Cœur, le Secours Populaire, on leur demande d'ouvrir plusieurs autres jours dans la période qui était prévue. Ouais. Donc, je sais que les Restos du Cœur vont faire des distributions pour les personnes qui considèrent comme les plus démunis en mai et juin. Mais il faut bien comprendre que
oui, les gens
la
qui sont
nécessité
démunis, sont démunis
existe
aussi,
même en dehors de l'hiver. Quoi.
Tout à fait, tout à fait.
Voilà. Ouais. Puis il y a des gens qui sont en situation de précarité de manière ponctuelle. Pour X raisons. Qui,
oui,
donc,
arrêt temporaire de travail. Ou
voilà,
des choses comme ça
peut arriver en dehors de l'hiver. Voilà.
Oui, tout à fait. Oui.
Donc nous, on collecte les denrées juste avant de faire notre distribution. Et on distribue tout localement. Et on n'a pas d'aide du national. Voilà. Contrairement aux autres associations qui ont des aides nationales, nous, on n'en a pas. On
des aides sous quelle forme ? De marchandises ?
Ils reçoivent des palettes de denrées.
Parce que vous n'êtes pas organisé au niveau national ?
Au niveau national, disons qu'au niveau national, on est organisé, mais il y a une liberté d'initiative. On s'organise comme on veut pour aider les gens localement. Voilà.
D'accord. Mais ça n'empêcherait pas ?
Non, ça n'empêcherait pas, mais souvent... on essaie plutôt, mais nous on n'a pas les moyens ni les infrastructures pour, de mettre en place des épiceries sociales. Mais bon, pour le moment ici, on ne s'est pas encore entendu pour le faire. Peut-être ça viendra, hein. Mais ce serait peut-être plus intéressant. Mais pour le moment, on n'a ni les moyens matériels, ni les moyens en termes de bénévoles pour le faire.
Parce
et surtout,
que là, vous
on n'a pas les débouchés.
Là, vous êtes combien?
Alors,
sur
en termes de bénévoles, on a une 60aine de bénévoles, dont 45 adhérents. La plupart sont retraités, quelques actifs et quelques jeunes. Mais donc, ça nécessiterait
une autre organisation
sociale,
ouais.
Une organisation en termes déjà local. Et puis, il faudrait avoir une banque alimentaire à plus près que Rodez pour
et
pouvoir
oui.
se fournir. Parce que tout ce qui est produit frais, on n'arriverait pas à les récupérer. Alors, on arrive à récupérer à Hyper-U toutes les denrées qui ne sont plus commercialisables. Mais qui sont encore consommables. Donc
avec
ça,
la
c'est
fameuse
bien.
Date limite.
Voilà,
c'est
ouais.
ça.
Puis, donc
puis sur les produits secs aussi. Qui sont,
quand on est d'aide alimentaire en mai, septembre et novembre, tous les matins où on fait la distribution, l'après-midi, donc le mardi et le jeudi, le matin, on va Hyper-U et on récupère ces denrées.
D'accord. Voilà. Ça vous arrive, mesdemoiselles, Rénal et Barrel, de donner à Saint-Vincent-de-Paul, au Secours Populaire ou...
Quand vous faites vos courses?
Saint-Vincent-de-Paul, non, j'ai jamais donné. Les Restos du Cœur, oui, chaque année.
Après, d'accord.
Bon, c'est vrai que je ne connaissais pas forcément Saint-Vincent-de-Paul et je ne savais pas qu'il faisait ce type d'activité.
Oui, c'est vrai que ce n'était pas trop connu, même si votre travail ouais. existe et ne s'enlève pas de sa valeur du tout.
Ouais,
hein, mais c'est vrai que c'est moins médiatisé, peut-être.
C'était, en fait, à la base, c'était l'idée, quand ça a été créé il y a 180 ans, c'était d'agir dans la discrétion. Aujourd'hui, ça ne marche plus. Si on n'est pas connu et reconnu, on arrive à...
Et oui, les médias.
Voilà.
Ben vous êtes là pour ça aussi, hein, pour faire parler de vous. Donc, on vous accueille aussi pour parler de toutes ces initiatives humanitaires.
Ouais. C'est une nécessité aujourd'hui. Donc, d'ailleurs, on a un blog svpm48@blogspot.fr. Donc, vous pouvez y aller, vous verrez toutes les actions qu'on fait. On essaie d'enrichir assez régulièrement pour montrer un peu ce qu'on fait. Et qui
et vous, et vous touchez combien de personnes à peu près? Vous avez estimé par an?
Alors, on a distribué l'année dernière 396 colis. D'accord. Pour 788 personnes. Il y a 12 SDF, 71 personnes seules et 58 familles.
Et ce sont que des familles mandoises ou des gens qui viennent
C'est des gens du bassin de vie de Mende.
D'accord.
Parce qu'on n'a pas les moyens d'être ailleurs.
D'accord.
Après, il y a d'autres structures, comme les Restos du Cœur, qui ont des camions et qui vont dans les Cévennes, etc. Mm. Ou qui ont plusieurs centres. Mais nous, on a qu'une conférence sur la Lozère à Mende. Et donc, on distribue et on participe sur Mende. Voilà.
Et sur la demande, est-ce que vous avez pu, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'évolution de ces dernières années, de ces derniers mois sur la demande ?
Il y a de plus en plus de personnes âgées et de plus en plus de familles monoparentales.
En situation de précarité.
Ouais. Ouais. Ouais.
Et ça vient de quoi ? Ça vient de la situation économique ou que les gens, en fait...
Ça vient que les personnes âgées, ben, elles n'ont pas forcément beaucoup de revenus, les loyers augmentent et surtout le coût énergétique de leur logement augmente. Ça. Et donc, du coup, pour se nourrir, elles ont plus de difficultés. Voilà.
Oui.
D'ailleurs, on attribue des aides financières pour le chauffage.
En plus des denrées, vous attribuez des aides financières.
Oui, oui, oui.
D'accord. Ouais. Par les dons qui vous sont faits.
Par les dons qui nous sont faits, par les subventions qui nous sont accordées par les pouvoirs publics, que ce soit la communauté de communes, le conseil général, la DAS, la CAF, etc. Donc,
D'accord. Il y a des salariés dans votre
oui,
association.
Oui, il y a une salariée. Qui, c'est nécessaire pour coordonner l'action de tous les bénévoles.
Oui.
Parce que quand on est 60, il faut arriver à s'entendre.
Quoi, Nathalie, t'es membre de l'association Saint-Vincent-de-Paul, tu dis oui
Non, je dis oui parce qu'effectivement, coordonner autant de bénévoles, ça paraît pas simple de toute façon. Donc c'est bien quand il y a une personne ressource, toujours.
D'accord.
Moi que d'accord. Toi.
Donc, non, non, je me moque pas, non. Mais je pense que l'humanitaire, ouais, c'est essentiel dans les périodes de crise. Hein.
Puis de toute façon, ça permet un accueil quotidien. C'est-à-dire que l'association est ouverte du coup de 8h à midi et de 14h à 18h tous les jours.
Mmh. Ouais, voilà. Ça permet aux gens de venir un petit peu dans la journée, quoi, en tout cas, sur des horaires d'ouverture. Mmh. C'est bien, ben, félicitations pour cette action. Donc, on peut rappeler aux gens donc, que c'est...
19 et 20 avril.
Voilà, 19 et 20 avril, donc dans les différents lieux ou exclusivement à...
Mais dans les grandes surfaces.
Dans toutes les grandes surfaces.
Voilà, Hyper U, Dia, Intermarché.
D'accord, ouais. Même les discounters.
Ouais. Ouais.
D'accord. Et donc là, les gens, ça marche comment?
Donc,
les gens donnent
les
ce qu'ils veulent
on
ou...
va leur distribuer un papier à l'entrée en disant ce qui est plus intéressant pour nous. Alors, si on peut éviter les pâtes. Parce que des pâtes, on en a en quantité. C'est la première chose qu'on donne.
Mais c'est aussi ce qui n'est pas très cher.
Ce qui n'est pas très cher,
ouais. Ça fait du volume. Donc,
bah, oui, mais bon,
dites-nous, du coup,
il vaut mieux des produits d'hygiène,
voilà.
Ça en a d'accord, peu, hein. Ou des aliments en portions individuelles.
C'est-à-dire
parce que des prêts à consommer, etc., en portions individuelles pour un SDF, on ne va pas lui donner une boîte de raviolis
ça paraît compliqué,
pour 5 personnes.
Mmh. Ouais. Même donc, si c'est pas terrible quand même les portions individuelles.
C'est pas terrible, mais bon pour
mais
eux,
c'est service,
ce qu'il leur faut,
ouais.
Voilà.
Oui.
Ouais, d'accord. Mm.
Il y a des gens qui nous ont eu donné des petits réchauds au gaz qu'ils avaient achetés exprès pour nous, pour donner à des SDF. Donc on les a donnés, voilà.
Et on peut trouver une liste comme ça de ce qui parce donc, que c'est vrai qu'on ne sait pas toujours.
Donne, on la donne à l'entrée du magasin.
D'accord. Donc à l'entrée du magasin de tous
ces
magasins.
À l'entrée du magasin, il y a un bénévole qui tendra d'accord. un papier aux gens qui
et donc,
veulent
ils,
participer.
Voilà. Ils peuvent puiser dans cette liste pour pour remplir leur caddie en sortant ou faire un sac particulier quoi.
Oui. Alors sardines, thon, pâté.
Donc tout ce qui est tout ce qui est petite boîte. Éviter les grosses boîtes d'un kilo.
Oui. Voilà. Bon, ça peut être intéressant si on a des familles, mais.
Mais pas
des
ça,
produits pour les bébés aussi, des couches, c'est très cher.
Ouais.
Et on a des familles monoparentales, des fois il y a des bébés.
Savon, voilà. Tout ça.
Tout ce qui est petit pot pour bébés, nourriture.
D'accord. Ouais. Oui, les gens peuvent être sensibles à ça. C'est vrai que sur un choix, ça peut être intéressant. On vous entend pas, M. Garcia. Peut-être parler dans le micro, merci.
Oui, effectivement, il y a beaucoup de jeunes ménages qui sont justement dans la précarité. Et ce que vient de dire M. Bragé, c'est qu'au niveau des enfants, bien souvent, les gens qui donnent à la sortie de caisses d'Intermarché, d'Hyper-U, donnent la plupart du temps des pâtes, des boîtes de conserve, mais on oublie souvent les enfants. Et il existe aussi des denrées pour les enfants, les bébés.
Et des bonbons, je pense par exemple.
Pas seulement des bonbons, ou des sucettes. Pas seulement des bonbons, ou des
sucettes. Non, mais ils en ont aussi.
Il y a une, maman, une jeune maman a besoin de tout le nécessaire vital pour son enfant. Et quand on pense qu'il a davantage de jeunes, on parlait des personnes âgées, certes, ça existe, malheureusement.
De plus en plus.
Il y a beaucoup de retraités. Mais il y a aussi des jeunes ménages qui sont dans le besoin et dans l'attente. Et ça, il faut féliciter cette opération. Moi, je la connais parce qu'on est en Mandois, donc il m'arrive, quand je vais faire mes courses, ben, de mettre quelques boîtes.
Vous donnez, vous, M. Garcia ?
Tout à fait. Tout à fait, quel que soit le, bon, quelle que soit l'association.
Samedi, dimanche,
samedi, ça sera difficile pour moi.
Ah voilà, et voilà.
Et ben, oui, puis en tant qu'organisateur d'une manifestation, tu ne peux pas être au four et au moulin.
Faites-lui un chèque. Hein.
Oui, tout à fait. L'association, vous savez, comme toutes les associations, a des revenus tout à fait modestes. Et ce qui fait que, et puis avec la difficulté, puisque nous avons affaire, comme vient de le souligner M. Brager, pour Saint-Vincent-de-Paul, nous aussi, nous sommes confrontés au problème du bénévolat. Et ça, sûrement, c'est le gros problème.
Sûrement, et plus loin.
Et ailleurs, tout à fait.
C'est le gros problème en France.
Nous parlons de Mende, voilà, parce que nous sommes à Mende.
On le voit, bien
mais,
sûr.
Mais autrement,
c'est, problème,
c'est vrai
qu'il y a beaucoup de bénévolat, quand même.
Oui, et bien souvent, nous retrouvons
c'est
des personnes...
C'est un problème, mais il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui font du bénévolat. Il y a beaucoup de Mendois ou même de Hausariens qui sont dans plusieurs associations.
Oui, tout à fait. J'allais le souligner, ça.
Il y a plus de 4000 associations actives en Lozère avec beaucoup de gens qui sont, les trois quarts des Lozériens sont dans des associations, c'est quand même
assez extraordinaire. Les activités de Saint-Vincent-de-Paul, ça représente environ 6500 heures de bénévolat par an. Mm-hmm. Voilà. Si on le valorise, ça triple notre budget.
Ben c'est sûr. De toute façon, il y a dans les budgets aujourd'hui prévus ce qu'on appelle les CERFA, les budgets qu'on renvoie pour les institutions, il y a une ligne valorisation, la ligne 80, où on peut rajouter dessus en fait l'ensemble des heures de bénévolat multipliées par le SMIC horaire qui valorise. Alors j'avais appris par exemple que la Croix-Rouge valorisait à plus d'1,5 million d'euros par an sur ses demandes de budget à l'État, valorisait à plus d'1,5 million d'euros leur bénévolat, ce qui représente des milliers d'heures, comme vous disiez, de travail. Mais sur des associations locales, ça représente aussi beaucoup. Si on prend le Barrage Monde, où il y a centaines de bénévoles sur pas mal de jours de l'année, si on prend le motoclub, si on prend la Ligue de l'Enseignement, là, qui est avec nous aujourd'hui aussi, c'est, je crois que c'est, vous me disiez, plus de 6000 adhérents sur le département, donc représentez-vous le nombre d'heures que ça fait, c'est énorme. Hein. C'est sûr qu'on n'en parle pas assez, que l'association aujourd'hui est vraiment le lien social par excellence, qui donne aujourd'hui peut-être un espace tampon, on va dire, sur une société qui est un peu en crise, et qui peut permettre un peu plus de solidarité. Donc c'est vrai qu'on appelle en fait les gens en fait, à plus de solidarité. C'est un acte citoyen, hein, plus qu'un acte humanitaire, je pense qu'au-delà de l'acte humanitaire qui se symbolise par le don, c'est d'abord un acte citoyen. On est dans une société avec d'autres gens et il faut s'en préoccuper.
Donner de son temps, c'est plus difficile de toute façon. Et c'est une richesse à entretenir.
Ben pour beaucoup de gens, ils n'ont pas le temps. Quoi, aussi. Ouais. Il faut qu'ils travaillent, il faut qu'ils alimentent aussi leur fourneau et leur foyer. Donc, une participation financière, ça ne dédouane pas de son engagement personnel. Mais ça contribue quand même au bien-être. Ouais.
Et c'est déductible à 60% des impôts.
C'est-à-dire que si je donne une boîte de conserve à...
La boîte de conserve ne sera pas déductible.
Mais vous pouvez me déduire, monsieur.
Bon, finalement, il vaut mieux vous faire un chèque.
Un chèque sera déductible.
D'accord. Donc là, vous faites un reçu en direct sur la...
Nous, on envoie la liste de tous les gens qui nous donnent. D'accord. Au niveau national.
D'accord. Et eux déclarent
au niveau national. Et le national vous envoie un reçu CERFA.
Ah.
D'accord.
Voilà.
Très bien. Bah, c'est une bonne... Voilà.
Voilà.
Non, mais c'est vrai qu'il faut lire, même aux entreprises d'ailleurs. Hein.
Il faut le rappeler.
C'est déductible de 60%.
Hein. Même non, plus maintenant. Pour nous, puisque comme on fait de l'aide alimentaire, c'est 75%.
75% sur l'aide alimentaire. Sinon, c'est autour de 60%.
Ouais.
Voilà. Donc, quand on donne 100 euros, ben, en fait, ça nous coûte 40 euros ou 35 euros. Quoi. Mais 25 euros,
25
pardon. Donc, c'est franchement pas beaucoup. Quoi. Franchement, c'est pas beaucoup. Bon. Voilà. Et ben, c'est encore un appel. On vous remercie beaucoup, M. Brager, d'être venu. Merci de ces informations. On invite nos auditeurs, bien sûr, à participer à cette collecte comme aux autres, puisqu'il y a aussi d'autres organismes qui collectent sur l'année. Hein. On a parlé des Secours Populaires, on a parlé des Restos du Cœur, qui font tous un énorme boulot, et heureusement qu'ils sont là. Et on doit aussi les remercier et les féliciter de ce travail-là. Voilà. On va faire une petite pause musicale avec Thomas Fersen.
Connaissez-vous l'histoire du comte Dracula qui l'emmène dans sa tombe et non sur un matelas du fond de son château? Je sens sur moi son œil quand je range mon violon dans son petit cercueil dans les rues de la ville. Parmi la multitude, je l'imagine dans son lit de solitude, ce fou romantique jeté dans les oubliettes. Il me semble l'entendre gratter à ma fenêtre. Connaissez-vous l'étrange conte Dracula qui dormait dans sa tombe ou bien la tête en bas? Il se relève la nuit pour aller se nourrir et il ne sait pas se décrire. L'eau des miroirs ne lui renvoie pas son reflet. Il ignore s'il est beau, il ignore s'il est laid. Il porte une cape, il porte une fraise en dentelle, un chapeau démodé, mais il est immortel. Je connais une fille dont le sourire pointu est plus cruel que celui de sa chevelure blonde, comme si l'on revenait d'une cave profonde. Le goût de sa personne comme celui de l'ail me reste dans la bouche, je doute qu'il s'en aille. Il semble que l'amour soit parfois un charme bien pire que celui que l'on prête au prince des vampires. De malheureuses piqûres dans le cou qui vous gratte, discrète signature du vieil aristocrate. Dans les rues de la ville, parmi la multitude, je l'imagine dans son lit de solitude, se fourre en
FM Le Mag.
Et nous voilà de retour donc sur le 29e magazine de 48 FM Le Mag. C'est un magazine qui marche, hein, Magali?
Ouais. Oui, oui, apparemment.
Tu l'écoutes un petit peu, ce magazine, non?
De temps en temps.
D'accord, ben maintenant ce sera tout le temps, hein, d'accord?
D'accord.
Voilà, très bien, donc on accueille justement maintenant dans cette deuxième partie le service vacances et le service formation de la Ligue de l'Enseignement. Alors je rappelle en quelques mots ce que c'est que la Ligue de l'Enseignement. C'est un mouvement d'éducation populaire né il y a très très longtemps en Lozère, donc en 1886. En Lozère, c'était plutôt autour des années 1938. Donc c'est aussi un mouvement qui est très ancien, très présent, et qui a fait beaucoup de travail sur... le temps périscolaire, l'accompagnement des enfants, le développement sportif, le développement culturel, donc qui œuvre dans un bon nombre deux domaines qui regroupent. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que sur un département très rural comme ça, c'est une fédération d'associations, donc qui regroupe plus de 160 associations aujourd'hui, plus de 6000 adhérents, avec, c'est vrai, une grosse partie d'enfants et de jeunes, et puis des adultes, des encadrants et des associations de tout type, hein, puisqu'il y a à la fois des associations sportives dans les écoles, associations culturelles, associations qui s'occupent de la lecture, de l'écriture. Voilà, il y a vraiment un panel très très large. Et là aujourd'hui, donc, nous accueillons Isabelle Reynal, qui est déléguée vacances donc à la Ligue de l'enseignement et qui s'occupe du secteur vacances, donc c'est-à-dire plutôt des colonies de vacances, c'est ça, des centres
oui,
de vacances.
Oui, en fait, c'est des colonies de vacances qu'on organise toute l'année. Donc, en fait, par période, on en a une qu'on fait tous les ans au mois de février, un séjour au ski qui se fait depuis au moins 5-6 ans sur la station de Var-Sainte-Catherine dans les Hautes-Alpes. Donc, on organise un séjour qui accueille une quarantaine d'enfants avec des encadrants qui sont pour la plupart bénévoles sur ce séjour.
Là aussi, on retrouve du bénévolat de façon très, très active.
Oui, et avec possibilité donc de s'inscrire sur des séjours ski ou des séjours surf. Donc on le fait une semaine pendant les vacances de février. Et ensuite, on a d'autres séjours qui se font sur les petites vacances, donc notamment aux vacances d'avril. Dans une semaine, il y a le séjour mini-galop qui va se faire sur le domaine du Bec de Jeu à Balsiège.
Mini-galop avec des mini-chevaux ou...
Non, c'est non, du canoë, ça.
Mini-galop, en fait, avec du cheval, de l'équitation. Alors, l'équitation qui se fait sur le centre équestre d'Alterac, où, en fait, le brevet d'État qui organise l'activité a fait le choix de faire de l'équitation éthologique. Donc, en fait, c'est plus de l'approche de l'animal avec découverte et soins aux chevaux et découverte active de l'environnement de l'animal. Il y a moins de monde, en fait, et c'est plus de pratiques au niveau de reprise en carrière, en manège, un petit peu de voltige, des jeux équestres.
Même surtout, de la voltige
ouais.
Vous allez les casser, les gamins là.
Non, et surtout, non donc, surtout sur l'approche de l'animal. C'est moins... c'est pas, en fait, destiné à des enfants qui ont l'habitude de faire de l'équitation pure et dure et de passer
d'accord,
des galops.
D'accord, c'est pas un séjour équitation c'est avec un brevet à la fin. C'est vraiment une découverte avec l'animal.
Et approche de l'animal. Et ensuite, d'autres activités, comme donc, la découverte de l'escalade qui se fait à la demi-journée sur le domaine de Bec de Jeu, donc le centre qu'on a, qu'on organise sur Balsiège. Où il y a un mur interne qui est sur
d'accord,
le centre.
Un mur couvert de 14 mètres de haut qui peut accueillir toute l'année même des associations.
Oui.
Juste pour dire, donc, ce mini galop, donc, c'est sur la période là, des vacances scolaires d'avril qui arrive la semaine prochaine.
Du 21 au 27 avril.
D'accord.
C'est destiné aux enfants de 6 à 14 ans.
D'accord, 6 à 14 ans. Et donc le séjour se passe en immersion, en internat, au domaine du Bec de Jeu.
Oui.
D'accord. Donc il y a plein d'activités, on connaît un petit peu le domaine.
Voilà, ils font donc l'équitation, de l'escalade. Ensuite, il y a du multimédia qui se fait donc sur le centre avec l'animateur multimédia du centre. Et puis ils vont aller à la piscine à main, ils vont faire des visites culturelles, des petites randonnées pédestres, des choses comme ça.
Un séjour multi-activité.
Multi-activité.
Voilà, avec une dominante éthologie.
Équitation
éthologique. Mmh. Ouais. Donc ça, c'est
le séjour là, celui-là est aidé par les aides de la CAF, puisque la CAF nous aide sur plusieurs séjours dans l'année, donc avec les destinataires de l'aide au temps libre 2013. Donc sur certains séjours, donc notamment aux vacances d'avril, pendant l'été et aux vacances de Toussaint, nous avons un budget qui est donné par la CAF.
Et qui permet d'aider les gens qui sont allocataires CAF.
Voilà, qui sont allocataires CAF, avec pas tous malheureusement, mais certaines personnes qui ont droit donc aux aides au temps libre, qui peuvent être aidées ou à 70 ou à 85%.
Et ces personnes-là ont déjà reçu cette information, voilà. Viennent de la recevoir normalement.
Ils la reçoivent environ au mois de février.
Oui.
Voilà, et donc avec cette information, ils ont droit à 21 jours par enfant. Ils peuvent les inscrire sur des centres de vacances pendant 21 jours. Et en fait, sur la Lozère, il y a 3 organismes qui sont référencés.
Oui, qui sont agréés
pour pouvoir recevoir les enfants.
De toute façon, vous pouvez informer les gens qui se poseraient des questions, qui sont allocataires, s'ils ont droit ou pas. Il suffit de téléphoner à la Ligue de l'Enseignement,
à la Ligue de l'Enseignement,
qui est toujours rue de la Chicanette, dans les anciens locaux qui on espère va bientôt en partir dans de nouveaux locaux.
Oui.
Et donc, voilà, au 04 66 49 00 30. Voilà. Donc, vous pouvez appeler, demander Isabelle Reynal qui vous renseignera sur l'ensemble de ces informations. Mais vous faites juste là où aux vacances
de Pâques. Et ensuite, sur l'été, donc, on a plusieurs séjours. Donc, c'est des séjours spécifiques qui se font depuis de nombreuses années, notamment le stage moto qu'on fait avec.
Donc là, c'est un stage sportif, hein, il faut le dire.
Un stage sportif, ouais. Oui, UFOLEP, qui se fait donc pour les enfants de 7 à 14 ans. Au niveau de l'hébergement, ils sont hébergés au camping de Saint-Bosile, qu'on organise.
Sous toile.
Sous toile, mais en fait, on l'aménage avec des tentes, avec des lits intégrés en dessous.
D'accord, des grands marabouts, il y a des lits, tentes, voilà. C'est pas le standing de base camping avec la tente quechua qui s'ouvre toute seule. Non, c'est pas ça. C'est du standing, quand même, il faut le dire.
Du standing. En même temps, on met donc des grandes tentes, des grands barnums avec pour la restauration. Avec des tables et des bancs. Mm-hmm. Il y a un autre grand barnum avec tout le les frigos, les choses comme ça pour pouvoir...
Oui, tout le matériel nécessaire pour réchauffer les plats. Ouais. Parce que là, la nourriture vient d'où ? C'est pas fait sur place ?
Non, c'est pas fait sur place. La nourriture est amenée directement et livrée par le domaine de Bec de Jeu. Puisqu'en fait, c'est notre, entre guillemets, cuisine centrale.
C'est une cuisine centrale, puisqu'elle a les normes HACCP. Ouais.
Tout à fait. Donc en fait, les repas sont livrés. Ils sont juste autonomes pour la préparation du petit déjeuner et des goûters.
Voilà, c'est bien. Donc, c'est une immersion à la fois, c'est du camping, mais c'est du camping grand standing avec un séjour moto où on apprend à faire de la moto.
On fait donc 5 semaines pendant les vacances d'été. Donc, 2 semaines en juillet et 3 semaines en août. Donc, au niveau des activités, on travaille avec l'école de moto du motoclub Lozérien qui se situe en partant vers Badarou.
Alors, il faut dire aussi que cette école est affiliée à la Ligue de l'Enseignement.
UFOLEP
et l'UCEP, c'est la Ligue aussi de l'Enseignement.
Voilà, puisqu'on a plusieurs associations qui ont des petites écoles de moto et qui accueillent les enfants donc, là-bas tous les mercredis et tous les samedis de l'année. Et donc, pendant les vacances scolaires, sur des petits séjours qu'on organise, nous ou d'autres personnes. Donc, au niveau de ce séjour-là, moto, il y a une première séance qui est la partie théorique où les enfants apprennent tout ce qui est le fonctionnement du monomoto et les règles de sécurité sur le circuit. Et en même temps, donc, il y a 5 séances d'environ 1 heure, 1 heure, 1 heure 30, où les enfants pratiquent la moto. Donc, il y a des motos de 50 à 125 cm cubes. Et donc, il y a 2 niveaux de circuit. Un circuit pour les débutants et un circuit un peu plus évolué, on va dire, avec plus de sauts, de bosses, pour ceux qui ont déjà fait de la moto.
D'accord, donc c'est assez technique quand même. Là,
c'est assez technique, et en sachant qu'un enfant qui débute, s'il se sent à l'aise au bout de 2-3 jours, peut passer sur le second circuit pour s'améliorer.
Et là, les conditions requises pour l'enfant, c'est quoi ?
De savoir faire du vélo sans les petites roulettes, simplement. De tenir l'équilibre.
À partir de quel âge ?
Oui, l'âge minimum, c'est
7 ans.
7 ans.
Ouais. 7 ans, donc,
c'est
faire de la moto.
Ouais, un stage très technique. Et est-ce que autour de la pratique de la moto, est-ce que vous faites des actions de sensibilisation, je ne sais pas moi, à l'environnement, par exemple, ce genre de choses ?
Oui, bien sûr. Ouais.
De quel genre ? Une sensibilisation à l'environnement,
voilà,
fait. Je crois qu'il y a quelqu'un qui intervient.
À la nuisance, oui, que représentent ces véhicules. Et puis, au fait aussi que ça reste sur un circuit fermé, il faut le dire. Hein. On va pas se balader comme ça en écrasant les belles pâquerettes qui viennent juste de pousser dans la pampa. Voilà. Mmh. Non, il y a un respect. Puis ce sont des terrains. Il y a aussi les explications données par les brevets d'État.
Oui, il y a 2 brevets d'État
qui interviennent et qui ont toute une formation autour de ça pour permettre d'enseigner un petit peu le respect.
Oui, parce que là, on est d'accord qu'on est en circuit fermé, mais après, ils sortent, les gens. Enfin, ils ne restent pas toute leur vie dans ce camp. Hein, les enfants.
Voilà. Enfin, j'espère. Avec des futures motos électriques.
Oui, ça marche bien aussi. Hein.
Oui.
Alors, parallèlement à ça, donc on a ces séjours-là. Bon, on en a plein d'autres. Le mieux, c'est d'aller voir peut-être sur le site de la Ligue de l'Enseignement, si on est intéressé.
Tout à fait.
Hein, c'est quelle adresse ? Le site de la Ligue de l'Enseignement.
C'est www.fol48.org ou sionta.fr, c'est pareil, on y tombe dessus.
Ça marche.
Et là, je crois qu'il y a beaucoup de données, beaucoup d'informations. Il y a des contacts, on peut écrire, on peut se renseigner sur ce site.
Toutes les infos sur les séjours. Je ne sais pas si on a parlé de tarifs. On a parlé un petit peu des tarifs. Alors, on sait qu'il y a des ZCAF, il n'y a pas de souci, mais juste que les gens puissent se faire une petite idée.
Un ordre de prix, peut-être.
Oui. Un ordre de prix. Donc, en fait, il y a deux tarifs en fait, sur ce séjour moto, puisque comme c'est un séjour UFOLEP, ça dépend en fait, si l'enfant est déjà licencié dans l'année UFOLEP ou pas. Mm-hmm. Donc, s'il n'est pas licencié...
Alors, pour être licencié UFOLEP, si votre enfant fait...
En fait voilà,
d'une association qui est adhérente.
UFOLEP, voilà. Donc, adhérente ou des associations de foot.
Voilà, comme l'éveil mandois, comme voilà. Le rugby club, pour les moins de 13, je crois.
Toutes les associations de gymnastique, voilà. Les associations de moto, donc il y a plusieurs associations. Donc au niveau des tarifs, les non-licenciés, c'est un séjour à la semaine donc, qui coûte 430 €, donc où la licence est comprise, et ceux qui sont déjà licenciés, le tarif est à 380.
D'accord, voilà. Mais ça c'est tarif plein sans...
Alors, ce tarif comprend les activités, les motos fournies, l'essence.
Tout est compris.
Tout est compris, il n'y a rien à rajouter.
Il n'y a rien à rajouter. Et en supplément de l'activité moto, ils vont aller à l'acrobranche, ils vont aller à la piscine, ils vont faire pareil des granges.
D'accord, il n'y a jamais de rajout, il faut bien le dire.
Il
n'y a
pas
que
de la moto sur ce séjour.
Oui, puisque de toute façon, on est limité à 2 heures par jour. Et que, après, c'est
une quoi. Question, s'il vous plaît. L'encadrement est réalisé en fonction par activité,
oui,
parce que ce sont des spécialités. Quand on parle d'escalade, quand on parle de moto.
Au niveau la moto, c'est des brevets d'État moto de l'association du motoclub lozérien. Au niveau de l'acrobranche, c'est un mime à aventure, donc du coup, c'est le brevet d'État de l'association. Oui. Et après, au niveau des autres activités du séjour, ce n'est pas des activités spécifiques qui nécessitent des...
Alors, ce sont des personnels techniques qui sont rémunérés par l'association.
Tout à fait. Oui. L'ensemble du personnel est rémunéré, mais c'est une bonne transition, justement, puisque on va parler formation. Donc, merci, monsieur Garcia. alors, en fait, tous ces séjours, ce que vous m'indiquez, c'est que tous ces séjours, bien sûr, sont encadrés par des directeurs qui ont un BAFD. C'est sous la législation de la jeunesse et des sports. Donc, c'est très réglementé. Il y a un dépôt de dossier qui est fait avec la liste des noms, des intervenants, du personnel. Tout est vérifié pour que les séjours soient encadrés avec que des professionnels, donc des gens qui ont des BAFA pour...
Les directeurs ont des BAFD et les animateurs ont des BAFA, donc ou stagiaires ou BAFA complet. Et en fait, on organise nous-mêmes les formations BAFA. Ouais, donc on engage les gens qu'on a déjà formés.
Donc là, il y a un suivi. Alors, Magali Barrel, qui est un petit peu la responsable de la formation au sein de la Ligue d'un
moment. Voilà. Et je voulais justement rebondir par rapport à la question qui a été posée sur l'environnement. La fédération, dans son service vacances, propose différents séjours. Et c'est vrai que le séjour moto est basé plus sportif. Celui-là qui vient à ce séjour vient vraiment pour faire de la moto. Mais ça n'empêche que le service vacances propose différents séjours où justement chaque enfant pourra y trouver son compte. Il y a des séjours vraiment basés sur l'environnement, puisque le domaine de Bec de Jeu, avec ses animateurs, ont beaucoup de diplômes et de compétences pour pouvoir organiser ces genres de séjours. Mais c'est vrai qu'on a proposé et le sport, donc le côté moto et des multisports, mais aussi de l'environnement et même un nouveau séjour cette année qui s'appellera Sucré Salé, qui est beaucoup basé sur la cuisine et l'artisanat.
Wow.
Voilà, j'ai eu l'occasion d'aller. J'ai eu l'occasion d'aller le présenter un petit peu sur d'autres départements pour essayer de faire venir des enfants, parce qu'il n'y a pas que des Lozériens qui peuvent s'inscrire. Il y a aussi d'autres enfants de d'autres départements.
Alors, comme quel département
Par exemple, nous, cette année, on est beaucoup travaillé sur le sud, hein, notamment Martigues, Istres, le Gard, Nîmes. Voilà. Donc, on va chercher ces enfants-là. Et c'est vrai qu'on va leur apporter notre environnement et nos capacités d'artisanat. Et donc, du coup, la cuisine, de la forge. Ils vont faire du pain.
Ils vont faire de la forge ?
Oui, ils vont faire de la forge, voilà.
Ils deviennent forgerons.
Donc. Voilà, il y a dans les compétences de nos animateurs, on a un forgeron qui amènera cette activité-là.
Donc, il fabrique
de la poterie aussi, peut-être.
De la poterie, exactement, du tissage, voilà, plein d'activités comme ça. Donc, sur les animaux, sur l'artisanat, sur la nature et aussi du sport pour convenir à tous les enfants. Donc, allez sur le site, vous verrez qu'il y a différentes activités, justement, pour permettre à vos enfants de faire un choix et de trouver ce qui l'intéresse.
www.fol48.org.
Exactement.
C'est ça. Alors, la formation.
Voilà,
parlez-nous un petit peu, Magali.
Pour tous ces séjours, justement, comme ma collègue disait, il faut des formations, des animateurs diplômés. Ou en tout cas qui ont été formés, qui ont commencé au moins une formation. Donc pour cela, la Ligue d'enseignement propose des formations BAFA et BFD, donc BAFA, brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, ce qui permettra à ces jeunes-là, une fois qu'ils ont commencé la formation, de pouvoir être animateurs sur le terrain,
à partir
sur
ces jours-là,
mais pas que des colos, dans le centre de loisirs.
À partir de quel âge?
Et il faut avoir 17 ans le jour où on attaque la formation théorique.
17 ans révolu.
17 ans révolu.
Le premier jour.
Le premier jour de la formation.
On peut s'inscrire à 16 ans et le premier jour, si on a 17 ans.
Exactement.
C'est bon.
On peut s'inscrire dès 16 ans et rentrer en formation le jour où on a 17 ans.
D'accord. Et la durée moyenne d'une formation BAFA, du coup,
alors,
ça s'étale sur combien
normalement,
de temps?
Normalement, sur la formation, il faut faire à peu près 30 mois. Elle ne peut pas excéder 30 mois. Et dans ces 30 mois, il faut faire les trois parties. La formation générale théorique, un stage pratique de 14 jours en présence d'enfants, et la troisième partie qui dure 6 jours, qui est la troisième partie, qui est une théorique aussi. Une fois qu'on a ces trois parties, les directeurs ne donnent que des avis, favorables ou non favorables. Une fois que les trois sont favorables, ils auront le diplôme.
Par un comité, c'est ça qui se réunit?
Voilà, c'est la DDC. Une fois qu'on a fait les avis favorables, un comité se réunit au sein de la DDCSPP.
L'ancienne Jeunesse et Sport.
Exactement, voilà. Et qui décide d'obtenir le BAFA ou pas. Donc ce n'est pas nous en tant que directeurs formateurs, voilà. C'est les recommandations du jury.
D'accord, alors d'accord. Il faut dire aussi que pour l'obtention de ce diplôme, les stages sont payants. Voilà.
Exactement.
Mais qu'on peut obtenir des aides, des bourses, notamment de la CAF.
De la CAF, de la DDCSPP, des comités d'entreprise pour certains qui peuvent avoir des aides comme ceci.
Il y a des villes aussi.
Il y a même des missions locales pour les moins de 25 ans, l'aide à l'emploi, qui peuvent donner des bourses ou des aides.
Qu'est-ce que ça apporte à un jeune de 17 ans de faire cette formation?
Ça lui permet de rentrer déjà dans le monde du travail, parce qu'aujourd'hui, à 17 ans, on n'a pas forcément du travail. En même temps, beaucoup de gens qui font le BAFA veulent aller faire, par exemple, un site. Professeur des écoles maintenant, veulent faire éducateur, veulent faire beaucoup dans le social, ou tout ça et tout. Donc ça les aide
un petit peu parce que
ça leur fait de l'expérience. Mmh. Exactement. Voilà, il y a ce premier choix, il y en a qui viennent pour ça, il y en a d'autres qui nous disent qu'ils viennent pour leur premier boulot et leur première expérience. Voilà. Mmh. Et justement de se chercher, de savoir si ça leur plaît d'être avec des enfants, puisqu'ils peuvent encadrer des enfants de 3 ans à 17 ans.
Oui, c'est pas une mince responsabilité en fait aujourd'hui d'être animateur BAFA.
Non, exactement. Et du coup, c'est pour ça que le diplôme est de plus en plus, avec des critères de plus en plus importants, puisque les parents qui nous confient leurs enfants ont envie d'avoir une qualité d'animation et d'avoir une sécurité hygiène réprochable. Exactement.
D'accord. Donc. Les jeunes, ils font 3 stages. Vous avez parlé de 3 stages. Vous proposez, vous, les 3 stages?
Voilà, exactement.
Donc, le stage de base, là, je pense qu'il y en a un en avril.
Sur les vacances d'avril aussi.
Ensuite, donc, ceux qui ont fait le stage de base, si j'ai bien compris, vous leur proposez une mise en situation, un stage pratique?
Voilà, c'est ça. Nous, la Ligue de l'enseignement a cette politique-là de placer nos stagiaires pendant la pratique, ce qui n'est pas une obligation.
Vous êtes le seul organisme à faire ça en région, hein?
Pardon?
Vous êtes un des rares organismes.
Exactement.
À le faire.
Il y a d'autres stagiaires qui viennent nous voir, qui nous écrivent pour nous demander s'ils peuvent trouver du boulot. Et c'est vrai que nous, on place déjà nos stagiaires à nous, puisque c'est notre politique à nous au niveau de la Ligue de l'enseignement.
Alors très pratique pour les jeunes qui veulent passer le BAFA d'avoir l'assurance derrière d'avoir leur stage pratique quand même.
Mais vous les payez?
Exactement. Et en plus, nous les rémunérons à hauteur. Voilà,
Vous êtes parfaite, les filles.
Ouais, exactement. Voilà, mais c'est vrai que c'est important parce que des fois, on a des stagiaires qui viennent nous voir et tout, qui ne trouvent pas et qui même trouvent des organismes qui ne sont pas payés. Il faut savoir que c'est quand même un coût. Le bas a un coût, l'approfondissement à la troisième partie a un coût, et que c'est pas évident des jeunes pour le payer. Donc le fait qu'un organisme comme la Ligue, mais d'autres aussi qui payent, qui peuvent payer les stagiaires, ça peut leur permettre de rembourser en tout cas une partie entre les aides et ça leur paye un petit peu la formation en général. Quoi.
Ouais. Et après ils ont un bagage qui est intéressant.
Exactement. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé dans les entreprises avec des BAFA et qui aujourd'hui ont passé des BPJEPS, des brevets d'État, ainsi de suite. Ça reste une première expérience et une avancée, ceux qui veulent vraiment devenir animateur professionnel. Quoi.
C'est une ouverture sur le monde du travail.
Exactement. Ça reste un diplôme de bénévole. Le BAFA, c'est quand même pas un diplôme professionnel, mais c'est vrai que c'est un tremplin. Ça peut être un tremplin pour celui qui veut se professionnaliser. Quoi.
Oui, parce qu'en plus, aujourd'hui, c'est vrai que dans les collectivités, de plus en plus, hormis la réforme qui se prépare sur les rythmes scolaires, il y a quand même l'idée d'associer de plus en plus des structures à l'école, comme des CLAE, des centres de loisirs, parce que ça existe depuis déjà plus d'une vingtaine d'années, je crois, ou 15 ans. Et donc, c'est vrai qu'il y a la nécessité d'avoir des gens qui ont une formation sur la petite enfance. Donc, un BAFA petite enfance, c'est quand même super bienvenu dans un curriculum.
D'accord.
Pour trouver après du travail, ne serait-ce que dans une collectivité ou pour dépanner. Parce que j'ai entendu dire qu'en fait, vous manquiez de BAFA.
Exactement, c'est que de plus en plus, même au niveau départemental et régional, quand je fais des comités, on se rend compte que les formations sont de plus en plus, de moins en moins de jeunes sont intéressés. On passait de 30, on est plutôt à 15 aujourd'hui dans les formations. Donc je veux dire, c'est qu'il y a un réel problème. Et puis même pour l'été, nous on est en recherche de BAFA. Alors les stagiaires, on les a puisque nous les formons et nous les prenons. Mais les BAFA complets, on a une pénurie totale. Et donc du coup, on est en recherche, on est obligé de mettre des annonces et tout. Et on se rend compte que c'est pas que le département de la Lozère.
Alors d'où ça vient ce problème d'après vous?
Bah, en fait, il faut dire qu'au niveau des BAFA, les gens, ils font le BAFA. Ensuite, bon, ils travaillent un certain nombre d'années là-dessus. Donc, et puis, une fois qu'ils ont atteint 20 ans par là ou 21, ils commencent leurs études. Et donc, du coup, après, ils n'ont plus le temps et puis ils rentrent dans la vie active. Et donc, après, c'est, en fait, c'est juste un passage, le BAFA.
Oui, c'est une courte, quelques années, courte période.
3, 4 ans. Et après, on part sur autre chose. Et donc, du coup, oui, ils sont plus disponibles.
Donc il y a cette explication-là. Est-ce qu'il n'y a pas une explication aussi sur la rémunération, mais qui est un petit peu faussée aujourd'hui?
Donc, voilà, il y a vraiment aussi le problème de rémunération parce que c'est, comme je vous disais tout à l'heure, il y a un coût. Du coup, il faut le financer. L'été, on veut travailler aussi parce que justement, on veut aller après payer son logement, sa nourriture de l'année. Donc déjà, c'est un coût plus payer ça. Donc du coup, si c'est pour se faire de l'argent, je le redis encore, le BAFA reste un diplôme. Normalement, à l'époque, il était bénévole. C'était juste avoir une formation et après, c'était pas professionnel. Donc du coup, aller travailler dans vente, par exemple, ça sera mieux rémunéré qu'un BAFA sur l'été. Alors qu'en plus, ils travaillent pratiquement 24 heures sur 24, puisque les enfants sont nuit et jour dans la journée ici sur le site.
Oui, parce qu'il faut dire que le BAFA, en fait, bon, hormis le fait que c'est un brevet, ça ouvre des droits pour encadrer, etc. Mais ça reste quand même, comme tu l'as dit, du volontariat associatif. C'est-à-dire qu'il y a un engagement de la personne. C'est pas, on ne fait pas le BAFA comme on va ramasser des carottes ou faire caissière à Hyper-U. J'ai rien contre du tout, hein, oui. C'est pas ce que je dis. C'est simplement que c'est un engagement et c'est du volontariat, donc on apporte et en même temps on reçoit. Et quand on reçoit, c'est aussi de la part des enfants qui sont présents, parce qu'il y a quand même, on travaille du vivant, hein, c'est pas juste des légumes. Il y a quand même un contact et une rencontre humaine qui est très très forte. Et puis il y a aussi tout l'à côté, c'est-à-dire que ce qu'on ne compte pas dans le salaire, mais qui est une valorisation qui est très importante, c'est que les gens qui bossent sur ces activités, en fait, sont rémunérés, certes, pas beaucoup. Je crois que c'est de l'ordre de 40 euros par jour, à peu près. C'est une base, quoi. C'est plus ou moins suivant les organismes. Voilà. Et après, il y a quand même les repas qui sont pris en charge intégralement, du petit déjeuner, l'hébergement, le blanchissage, voilà. Et puis les activités auxquelles ils participent, quoi. Donc c'est vrai que c'est un tout et qu'on peut pas juste regarder l'appât du gain, quoi. Que c'est un engagement, c'est une formation. On reçoit beaucoup, on donne beaucoup, mais on reçoit beaucoup et ça laisse beaucoup de traces, je crois, dans une vie de citoyen.
Tout à fait. Et puis en termes de première expérience professionnelle, c'est de toute façon intéressant, il me semble. Mais ce qu'il faut voir aussi aujourd'hui, c'est qu'on a un nombre de jeunes incalculables qui cherchent du travail pour l'été. Hein. Forcément, les revenus diminuant pour les familles, on a de plus en plus de jeunes qui cherchent à travailler l'été, y compris des jeunes qui ont comme tranche d'âge 17-18 ans. Donc là, il ne faut pas se leurrer non plus. Hein. Ce n'est pas facile de trouver du boulot. Il n'y a quasiment rien pour ces jeunes-là. Donc le BAFA, même si il peut être perçu comme pas super rémunérateur, en effet. Il faut voir effectivement à côté toutes les autres conditions. On est quand même nourri, logé, donc ça fait quand même un petit... Transporté, ça fait quand même un petit apport financier. Et surtout, ça fait de réelles premières expériences professionnelles. Et ça, on sait bien qu'au démarrage de la vie professionnelle, c'est indispensable dans un CV aujourd'hui.
Mais ça n'empêche quand même qu'au niveau des réglementations que la DDCSPP nous demande de mettre en œuvre, et il est vrai quand même qu'ils sont vraiment responsables. C'est-à-dire que dès qu'ils sont sur la pratique... Ça reste des stagiaires totalement, stagiaires BAFA, puisqu'ils n'ont pas encore fini les trois parties, mais ils sont responsables, quoi. De vos enfants et de tous les enfants, quoi. Donc c'est quand même important.
Donc il faut bien les former, c'est ce que vous faites.
Exactement, il faut bien les former, et surtout, ça va les responsabilités, ça va les faire grandir. Et justement, à 17 ans, arriver là et se rendre compte de toutes les responsabilités qu'ils ont au niveau vie quotidienne, jeu, réglementation qu'il peut y avoir, ils se rendent compte de la semaine de formation que c'est pas moindre. Ils vont peut-être s'amuser avec les enfants, ils le voyaient comme ça au départ, mais à la fin, ils se rendent compte que c'est beaucoup de responsabilités. Mais ça reste une super expérience et de superbes bases pour aller dans la vie d'active ou d'être animateur professionnel.
Puis c'est une confrontation avec les réalités professionnelles. Et ça, à un moment donné, il faut s'y cogner.
Exactement.
Voilà. Donc les gens qui sont intéressés, ils font comment?
Eh bien, les gens qui sont intéressés, soit ils vont sur le site.
Toujours ce fameux site. www.fol48.org.
Voilà. Ou alors ils appellent au 04 66 49 00 30 et ils demandent Mademoiselle Rénal ou Mademoiselle Barrel. Voilà.
Très bien. Et ben, on vous remercie en tout cas de toutes ces
infos. On donnera toutes les dates qu'il peut y avoir dans l'année. Voilà.
Super.
Très bien, très bien. Voilà. Merci beaucoup. On va faire une petite coupure musicale avant de reprendre la troisième, dernière partie de notre émission.
The bright hole where the tenderness of the fair sex I can cover entirely their thirsty faces with a single hand I can make the expanse of seals quick, squick, seals quick. With a woman's skill I can make the expanse of guy slip, slip, guy slip tight, slip. I slip tight while I am stuck in this other dress, wondering if I'll be okay. Mumbling, I'm okay, I'm okay, I'm okay, I'm okay, I'm okay, I'm okay. They don't want me.
FM Le Mag.
Voilà, dernière partie de cette émission, ce 29e Mag. Voilà, nous accueillons donc Monsieur Garcia qui s'occupe de l'amicale philatélique du Gévaudan qui organise Carrefour Collection. Voilà, vous pouvez nous en dire un petit peu plus. Donc les dates déjà de ce Carrefour.
Bien, c'est le 20 avril. Donc ce prochain samedi,
Si vous permettez, je peux me présenter. Marcel Garcia, je suis le président de l'association Amicale Flatique Gévaudan, qui est une association, bien sûr, mandoise, mais qui est aussi une association départementale. Donc nous organisons, après avoir pris le relais dans les années 98-99 de l'association de, qui avait été créée par une professeure du lycée technique, pour la nommer, Madame Josette Bourrier, avec sa section de commercial, de brevet commercial, avait créé donc ce Carrefour Collection en 94.
Donc c'est puis, une association qui était au sein du lycée technique.
Oui, c'était une association d'élèves qui avait créé donc cette manifestation qui regroupait tous les collectionneurs en tout genre.
C'est-à-dire
donc des toutes espèces de collections, ça va du pins en passant par les crayons de cahier, les buvards des années 50, comme
les boîtes de camembert,
les étiquettes de camembert, tout à fait. Et donc, l'Amicale Flatique Gévaudan était partenaire donc de cette association. Nous avons toujours accompagné cette association depuis sa création. Mm-hmm. Et puis nous avons repris quand les élèves ont voulu arrêter, mettre un terme à cette organisation. Nous avons pris le relais afin que nous ayons sur Mende une bourse digne du nom représentant tous les objets qu'on peut collectionner.
Donc 20 ans, 20 ans.
Voilà, c'est le 20e anniversaire.
20e édition, 19 ans. Et du coup, c'est vous, en tant qu'association amicale philatélique, pardon, c'est bien amicale, hein ?
Oui,
amicale. En tant qu'amicale philatélique, qui organisez donc le carrefour de collection pour toutes les autres collections, c'est
tout
bien ça, hein ?
Tout à fait, tout à fait. Donc vous allez, si vous venez, vous êtes tous les visiteurs qui passeront samedi par la Halle Saint-Jean.
Je vous donc c'est ce samedi, là ?
Oui,
c'est
toute la journée ?
Toute la journée, de 9h à 17h45. Mm-hmm. Et donc les visiteurs trouveront à travers les stands ou en exposition des objets, comme je vous ai dit, tout à fait variés, tout à fait divers.
Qu'est-ce qu'on trouve comme objet insolite, qu'est-ce qu'on trouve ?
Il y a des, par exemple des petites mignonnettes de parfum.
Mm-hmm. Ah oui, d'accord.
D'alcool aussi.
Nous trouvons des minéraux. Mm-hmm. Alors, il y a beaucoup de minéraux, c'est vrai que bon, ça se pratique beaucoup dans le commerce. Hein. Vous achetez une roche quelconque, vous allez dans un commerce qui a pignon sur rue, vous trouvez les roches que vous voulez. Mm-hmm. Donc il y aura tout à fait, ça sera tout à fait hétéroclite. La liste est trop longue.
Bien sûr.
Il y a combien d'exposants là,
à peu près ? Alors nous avons cette année des exposants professionnels. Il y en a une vingtaine qui viennent des départements limitrophes.
Ce que vous appelez qu'est-ce professionnel, c'est quoi ?
C'est des marchands. Ce sont des marchands qui ont pignon sur rue.
Des
marchands. Alors là, on trouvera beaucoup de marchands de cartes postales, de vieux papiers, de livres.
De vinyle.
De philatélie, cartes postales anciennes et de monnaies anciennes. Donc les numismates trouveront leur compte, là aussi.
Amis numismates.
Oui, ce sont les collectionneurs
de monnaie.
Tout à fait, de monnaie et de billets anciens ou même assez semi-modernes. Tout le passage de l'ancien franc au nouveau franc ou le passage à l'euro, ça a créé donc une émulation.
Si j'ai un vieux bifton de 100 francs, je peux aller là-bas et
l'échanger. S'il est en bon état, qu'il ne soit pas plié, bien propre.
Ah, il ne faut pas qu'il soit plié.
Ah non.
Ah, c'est compliqué quand même pour un billet.
Ben, c'est-à-dire que, après il y a le côté affectif, vous savez, c'est... Un collectionneur ou un marchand qui voit une pièce tout à fait assez exceptionnelle peut faire, l'acquisition d'un objet qu'il soit froissé ou plié. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas qu'il soit mutilé non plus. Or, c'est assez compliqué. Les pièces de monnaie, c'est déjà un peu plus rare, puisque ici, facile, dans la région, nous avons...
Pour les plier, déjà,
beaucoup
c'est
plus rare. Nous avons les pièces de monnaie avec les baronnies, à travers les baronnies qui existaient.
Ah oui.
Donc, on peut trouver, en faisant des fouilles, bien souvent, ce sont des gens qui ont la poêle à frire, vous savez, et qui vont au pied des châteaux. Notamment, ça se pratiquait à une époque beaucoup... au château du Tournel, où on voyait des gens affublés d'écouteurs et puis avec une espèce de poêle à frire et en train de remuer la terre. Donc il s'est trouvé des objets assez importants d'ailleurs. Et donc on peut trouver à travers des stands
des
pièces remarquables.
Et est-ce qu'il y a des musées qui sont intéressés parfois par ces découvertes ou est-ce qu'il y a des...
Au niveau des
conservateurs qui viennent pour regarder
ça dépend de si ça tombe dans le domaine dans le domaine, disons, de l'administration, de public, c'est quand même assez difficile puisque on tombe dans le domaine des fouilles archéologiques. Et là, c'est bien cadré, c'est bien. Mais comme il s'agit la plupart du temps de petites pièces, de petits objets qui datent des Mérovingiens ou des Capétiens ou avant, hein, peut-être, de l'époque gallo-romaine, donc ça se trouve toujours. Donc ce sont les collectionneurs qui s'échangent ces pièces-là et qui se revendent entre eux, alors qu'ils soient marchands, professionnels ou collectionneurs amateurs.
D'accord. Alors vous nous disiez que cette année, vous aviez une thématique particulière.
Tout à fait. Cette année, alors il faut savoir que chaque année, nous donnons un thème à notre Carrefour Collection et nous créons une carte postale.
Chaque année, oui.
Chaque année, en fonction du thème. Bon, cette année, la carte postale que vous voyez, que vous tenez entre les mains, que les auditeurs ne peuvent pas voir,
elle est jaune.
Samedi. On reprend le logo. Donc, le premier logo qui a été créé par un dessinateur local qui s'appelle Monsieur Roland Leslouin.
Ah oui, on le
connaît bien. Bonjour Roland, si tu nous écoutes.
Ah ben, vous verrez ces petites initiales en dessous.
Oui, on les voit bien. Hein.
Donc cette carte postale est éditée chaque année en fonction du thème.
Oui.
Cette année, étant donné que c'est le 20e, nous aurons la présence du bureau de poste temporaire, bien sûr, sous la halle Saint-Jean, avec un tampon, un cachet à date, honorant donc et commémorant le 20e anniversaire. Et que ce tampon reprendra le dessin que vous voyez sur la carte, c'est-à-dire le logo, c'est le logo officiel du Carrefour Collection.
Et du coup, les gens pourront venir faire tamponner leur timbre qui prendront une valeur inestimable.
De la PG,
ou leur carte.
Alors, il faut savoir aussi que nous avons édité un timbre par fait mon timbre à moi, qui est par n'importe qui peut faire son timbre à sa photographie par Internet. Donc nous avons fait une quantité assez limitée.
On peut faire un timbre à son effigie.
Vous cliquez.
C'est la poste qui fait ça.
Ah oui. La poste,
sur Internet,
mon timbre à moi. Et puis vous envoyez votre photographie, votre photo d'identité, et vous éditez le timbre que vous voulez avec votre date de naissance,
avec votre photo. Votre nom, c'est bien pour toi, ça, Nico, qui est un peu démago, non?
Beaucoup de gens, beaucoup de gens.
Timbre à ton effigie.
Démago du tout.
Non, c'est une blague, bien sûr.
Est-ce que là, je sais pas, parce que là, t'as pas mangé, toi? T'as les crocs, non?
Elle est à jeun.
Mais mégalo.
Peut-être voilà. Mégalo plutôt. Voilà.
Puisqu'on parle d'être à jeun, quelqu'un qui n'a pas mangé, qui est en plus qui a soif de connaissances, donc samedi, pour assouvir justement tous ces manquements. En prenant bien sûr en passant au stand de l'amicale où il trouvera la carte, le timbre que nous avons émis qu'il pourra coller sur la carte. Il ira au bureau de poste se faire tamponner avec le cachet spécial du 20e anniversaire et expédier à partir du bureau de poste temporaire qui est là toute la journée.
Parfait, c'est super. Le circuit complet.
Alors il faut savoir que ce sont des timbres qui sont faits en lettres vertes.
Oui.
C'est-à-dire en pli non urgent. Les timbres, vous savez qu'il y a deux espèces de timbres. Il y a le timbre prioritaire, que vous payez 63 centimes, je crois. Je ne me souviens plus, mais je crois que c'est ça. J'envoie très peu de courriers, puisque j'ai beaucoup de timbres dans ma collection. J'utilise mes timbres.
Le timbre vert qui doit être à 58 centimes.
Voilà, donc c'est un pli pour les plis non urgents, c'est le timbre vert, passe-partout. Donc le thème que nous avons émis. C'est une question de prix. Nous sommes une association, je le répète, et donc nous n'avons pas des moyens très importants au niveau. Nous avons une subvention, comme beaucoup d'associations de la ville, qui nous est servie par la mairie. Voilà. Et donc ici, moi, je tiens d'ailleurs à remercier la mairie de Mende pour son soutien. C'est la mairie de Mende qui va nous aménager la halle Saint-Jean samedi, vendredi après-midi. Et puis nos partenaires locaux, hein, bien sûr, nos...
Ben là, la Poste, du coup, qui...
Et la Poste, bien sûr. Ben, la Poste, c'est depuis que nous avons repris donc, le Carrefour Collection en même, la Poste est notre partenaire annuel, et privilégié d'ailleurs. Nous avons d'autres sponsors, comme le département, le Conseil Général de la Lozère, qui nous aide aussi, Nous avons au plan local, donc il faut remercier aussi d'autres partenaires comme, comme les cafés Henri Blanc et puis j'oublie le nom de...
Non, là, il ne faut pas les oublier.
Oui. Donc oui, voilà, donc nous sommes aidés à ce niveau-là parce qu'on fait en sorte que l'accueil soit que nous allons proposer, oui, oui, mettre en œuvre pour les marchands qui viennent, qui n'hésitent pas à faire des kilomètres, eux. Nous avons des, oui, gens qui viennent, des marchands qui viennent de Nice, qui viennent du Gard, de l'Hérault. Nous avons des commerçants, des marchands qui viennent du Puy-de-Dôme. Donc, et donc, il faut les accueillir dans
les bonnes conditions. Ouais. Voilà. Mais là, donc, vous en avez combien à peu près de...
Nous avons une vingtaine de marchands.
Ouais. Et de collectionneurs
d'ailleurs. Oui, ce sont des marchands qui viennent vendre
leur collection,
postale, ouais, leur vieux papier. Tout ce qui concerne la marcophilie, je n'en ai pas parlé, mais la marcophilie, c'est une science assez récente, assez moderne. Maintenant, les gens s'intéressent beaucoup à l'histoire de l'empreinte postale, donc du cachet de poste, qui existait bien avant la parution du premier timbre de France qui est sorti en 1840.
La marcophilie, vous appelez ça ?
Oui.
C'est la trace, c'est le filigrane qu'on
trouve. La marcophilie, c'est la marque postale.
D'accord.
C'est l'oblitération qu'il y a sur l'enveloppe et ça existait toujours depuis le XVIIe siècle. Et à ce sujet,
déjà avec les sceaux, avec la partie,
oui,
en cire.
C'était la poste, ouais, royale. Ouais. Mais c'est vrai que les visiteurs découvriront justement des pièces uniques, parce que nous faisons une exposition concernant le thème. Je vous ai parlé d'un thème tout à l'heure. Ce thème, cette année, c'est l'histoire du bureau de poste de Mende, du XVIIe siècle à nos jours. Et donc là, vous verrez des pièces exceptionnelles issues de collection privée, bien sûr, et une exposition qui est exceptionnelle avec des documents très rares, très intéressants à voir.
Et la Poste à Mende, ils n'ont pas de la collection, eux. Ils n'ont pas un fonds.
Non,
ils n'ont pas, non, ça.
La Poste vend, la, ouais, Poste vend les, timbres.
Mais ne les garde pas.
Ils n'ont pas gardé.
Voilà, dès que le tarif change, au changement de tarif, les thèmes sont retournés, les invendus.
D'accord.
Voilà, à fil à poste. Donc, ça, c'est l'administration. Enfin,
ah, je crois qu'il y avait un fonds documentaire qui était, voilà, qu'on conservait. Oui.
Là, à une époque, la Poste envoyait, notamment dans les écoles, pour inciter les jeunes à faire des collections de thèmes, envoyait chaque nouveauté, et je crois que c'était deux fois par an, dans les écoles les plus reculées de Lozère, elle envoyait la série de thèmes qui étaient sortis. Ce qui permettait à l'institutrice ou à l'instituteur de montrer les thèmes qui étaient sortis et les écoles les gardaient, les thèmes, d'une année sur l'autre.
Donc là, il y a un fonds.
Là, il y a un fonds, mais ça n'existe plus. Voilà, la Poste n'en voit plus. La Poste, maintenant, pratique un commerce.
Et oui, ils sont rentrés complètement là-dedans.
Mais pour en revenir à ce carrefour, moi qui n'ai pas tout compris, donc on a une vingtaine de marchands, ça je l'ai bien compris, où les collectionneurs du coup pourront trouver les objets rares qui leur manquent. Mais à côté de ça, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver ?
Bien, à côté de ça,
tous les collectionneurs individuels,
voilà,
qui viennent avec
tous les collectionneurs. Je vous ai dit, c'est toute collection, donc il n'y a pas
bien
que
sûr
de la philatélie ou de la numismatique, ou des cartes postales anciennes. Il y aura des vieux papiers, des vieux livres, il y aura
des
boîtes de camembert, oui,
à il y aura des
pins, il y aura
des fèves. Parce que Roland Lessoin a réalisé, il vous a réalisé
ça,
il a fait aussi toute une collection de boîtes de camembert détournées.
Je la connais.
Voilà, vous l'avez vu, donc c'est intéressant parce qu'il en a fait des tableaux.
Voilà, malheureusement, il sera absent dimanche. Ouais. Il sera absent samedi.
D'accord, on le salue. Voilà.
Mais par contre, la 48 FM est cordialement invité. Vous êtes invité, madame, monsieur, à venir nous rendre visite.
D'accord.
Samedi. Ouais. Samedi matin, à 11h30, il y aura l'inauguration de l'exposition. Et nous avons l'avantage d'avoir les personnalités locales. Mais si vous voulez bien sûr faire un papier, ça c'est à vous de... parler.
Papier oral.
Papier parlé.
Sur oral.
Et donc,
ça permet disco, un papier oral.
Vous aurez l'occasion ainsi, de à travers un reportage que vous pourrez éventuellement faire ou réaliser, côtoyer des collectionneurs et vous verrez que vous serez surpris.
D'accord, ben on va essayer de venir, essayer de faire un petit reportage, pas un potage dessus.
Un reportage.
Voilà, et puis en tout cas, on vous remercie beaucoup d'être venu, nous expliquer ce carrefour de collection. On invite tous nos auditeurs, bien sûr, à aller jeter un œil, hein, puis à rencontrer ces collectionneurs, parce que je pense qu'il y a beaucoup de surprises à découvrir pendant cette journée.
Tous les collectionneurs, qu'ils soient amateurs, confirmés ou débutants, sont cordialement invités à venir nous rendre visite. L'entrée est gratuite, le parking est assez grand et accueillant pour recevoir suffisamment de voitures et de monde. Donc nous vous attendons nombreux.
À la Halle Saint-Jean,
merci beaucoup.
Donc c'est samedi, voilà, à partir de
9h,
ouvert
au public à 9h.
Jusqu'à
17h45. 17h45, enfin, ça dépend.
D'accord.
Voilà, je vous remercie beaucoup.
Merci à vous.
Merci.
Avant de se quitter, on va vous donner quand même quelques petites informations en vrac. D'abord, vous dire qu'il y aura un spécial magazine concernant les rythmes scolaires et puis la réforme scolaire. Donc, ce sera le 14 mai prochain. Donc là, il y aura bien sûr quelques invités, mais spécialement sur la partie éducation. Et puis,
quelques spectacles ce soir.
Voilà, un spectacle ce soir sur Mende.
Un sur Mende. Alors,
et puis un sur Saint-Chély.
Et puis un sur Saint-Chély.
On
commence par Saint-Chély. Alors, à Saint-Chély, au Ciné-Théâtre, donc ce soir à 20h30, un spectacle, donc Le Piston de Manoche, un tendre clown au cornet à piston qui alterne humour sur jeu de mots et extraits musicaux, selon Télérama. Intéressant. Donc pour tous, à partir de 10 ans, c'est un spectacle qui dure 1h10 environ.
Voilà, dans la nouvelle salle du Ciné-Théâtre à Saint-Chély.
Tout à fait.
Récemment inaugurée.
Tout à fait.
Et nous avons sur Mende.
Sûrement de ce soir, donc à l'Espace des Anges, L'évasion de Camus. Donc c'est une adaptation libre du roman de Daniel Pénac par la compagnie Coup de Poker. Donc 18h30 à l'Espace des Anges, durée 1h.
Voilà, un très beau travail qui a déjà été joué donc hier après-midi pour les scolaires. Ce matin à 9h, voilà, je pense que les séances se sont très très bien passées. Les enseignants ont pu travailler aussi sur le texte dont tu parlais de Daniel Pénac.
Pénac,
voilà.
Oui.
Théâtre masqué à voir en famille, voilà, à partir de 4-5 ans. Très très beau travail. Voilà, c'est une
on vous le conseille.
Très bonne soirée. On vous dit à bientôt. Vous pouvez réécouter ce mag en podcast. Sinon, la rediffusion en direct donc, se fait jeudi à 18h11. Merci pour votre écoute et on vous dit à bientôt.
À bientôt.